les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous. Annoncer la mort d'un ami de l'émission et d'un grand auteur est une douleur absolue. Il y a des hommages que l'on aimerait ne pas avoir à faire. Aujourd'hui, la librairie francophone est en deuil avec la disparition soudaine et prématurée de Jean Tellet. Cette émission lui est dédiée. Voici le sommaire.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Tout au long de cette émission, donc, nous rendrons hommage à Jean Tellet avec nos invités, avec sa voix et avec des extraits d'émissions réalisées avec lui dans le rire et les souvenirs. Nous recevrons Brigitte Giraud en lice pour le prix Goncourt avec un livre magnifique sur la disparition et sur la vie. Une réflexion habile sur ces événements, ces hasards et ces décisions qui auraient pu changer les choses si tout s'était déroulé autrement. Nous vous parlerons aussi d'une bande dessinée qui fait l'événement en librairie. Un petit chef-d'œuvre graphique qui vous emmènera dans la Russie des années 90 autour de personnages loufoques avec Pierre-Henri Gaumont. C'était un grand homme, un grand rêveur. Jean Tellet est mort soudainement, prématurément, mardi soir à l'âge de 69 ans. La bienveillance, la gentillesse, la convivialité, la générosité, c'était Jean Tellet. Ce n'est pas un hommage de journaliste, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu avec lui. Jean était capable de vous faire toutes les blagues, d'assurer une émission et de prendre soin de vous en même temps. Il a accompagné cette émission toutes ces années, toujours là, toujours présent, acceptant toutes les fantaisies qu'on lui proposait jusqu'à co-animer un jour une émission avec moi lors du Salon du Livre de Paris. On l'aimait profondément, il aimait la librairie francophone, ses libraires et la formidable équipe qui m'accompagne. Il était comme ça, fidèle, loyal, reconnaissant. Jean, c'était une perle, un artiste, un vrai, avec sa fragilité et son génie. De la BD au roman, en passant par la télévision et le cinéma, il avait réussi partout. Il avait aussi l'amour du public, et c'était bien normal, il le méritait tant. Jean Tellet pouvait vous raconter comme personne la vie des rois, de Charles IX et de la Saint-Barthélemy, comme ce jour-là en 2011. Vous semblez bien aimer les frasques de l'époque, le côté un peu paillard.
Oui, oui, bien sûr.
Vous êtes un peu paillard, Jean Tellet, non?
En tout cas, j'aime bien raconter ça. Et puis c'est vrai que j'avais le challenge de ce livre, c'était d'essayer de faire un livre drôle autour d'un thème qui vraiment ne l'est pas, quoi, la Saint-Barthélemy. Je me disais, ça serait bien que ce soit le premier livre drôle sur la Saint-Barthélemy, parce que jusque-là, je les ai trouvés sinistres.
En tout cas, c'est vrai que quoi qu'il fasse, ce Charles IX, il détruit son peuple, même quand il décide de leur offrir un porte-bonheur, à savoir du muguet, la tradition. La tradition vient en partie de là, d'ailleurs, vous le rappelez. Il les rend tous malades, puisque la plante est toxique. Il
même
leur offre... même mort, évidemment.
Parce que le muguet est une plante ultra toxique. Tout dans le muguet est mortel. Clochettes, tiges, feuilles, tout est mortel. Et comme les gens crevaient de faim et tout, quand les soldats arrivaient, le 1er mai, en disant « Tenez, c'est de la part du roi », les gens disaient ah, « Tiens, pour une fois qu'il nous file à bouffer, celui-là donne ça. » Le soldat, il balançait ça dans la soupe, ils ont bouffé ça et ils ont crevé en masse. À chaque fois qu'il a pris une décision, Charles IX, ça a été une hécatombe. C'est le roi de la loose.
L'humour, toujours l'humour, même avec les événements graves de l'histoire. Grâce à lui, tout le monde avait accès à la grande histoire sans jamais s'ennuyer. Découvrant des personnalités incroyables, terrifiantes, mais si loufoques qu'il valait mieux en rire, à l'image de l'empoisonneuse Fleur de Tonnerre.
C'est sa mère qui l'avait surnommée Fleur de Tonnerre. Ça a été sa première victime à 8 ans. Après, elle a buté les deux tantes maternelles, sa propre sœur et tout. Puis elle est revenue des années plus tard parce qu'elle avait oublié le père et elle a buté le père aussi. Enfin, voilà. Elle tuait tout le monde. Et sans distinction, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants.
Ah oui, tous âges. Ouais.
Tous âges.
Les pauvres aussi.
Voilà. Alors que d'habitude, les serial killers ont des spécialités. Landru, c'était les bonnes femmes. Jacques l'Éventreur, c'était les prostituées. Petiot, c'était les juifs et tout. Tandis qu'elle, hop, c'est tout ce qui vivait, quoi. Elle était cuisinière, elle allait de presbytère en maison bourgeoise, en bordel, et puis elle était toujours auprès des malades, nuit et jour, en leur disant ça va aller, elle leur épongeant le front, elle disait reprenez un petit peu de soupe aux herbes, reprenez une petite part de gâteau, et là-dedans il y avait de l'arsenic, et ils claquaient les uns derrière les autres. Et puis en plus elle était marrante, parce que elle allait très souvent aux obsèques de ses victimes, et en sortant du cimetière, elle disait presque toujours la même phrase, elle disait, oh là là, encore un, et quand je pense que ça n'est pas le dernier...
C'est horrible.
Elle était vraiment space. Hein.
C'est une folle furieuse.
Ouais. Il était temps de la remettre au...
De lui rendre hommage, c'est
oui.
Ça
ouais.
Merci Jean.
Pour sa vie, son œuvre.
On a parlé de quasiment tous ses livres avec lui. La librairie francophone était son rendez-vous. Il aimait ça et nous aussi. Sincèrement, joyeusement, lors de l'apparition de son dernier roman sur la bataille d'Azincourt, il avait réussi encore à nous faire vibrer avec le pire, à nous faire rire en allégeant la vie. Alléger la vie. Donner un autre regard caustique sur tout ce qui nous entoure. Sa voix, son phrasé me faisaient rire aux éclats. Faire une émission avec Jean Tellet était une récompense, ce qui justifiait parfois de faire ce métier et de tenir, de surmonter la violence du monde médiatique, parce que s'il fallait vivre tout ça pour rencontrer la gentillesse et la joie communicative d'un Jean Tellet, alors ça valait le coup.
Le roi de France, déjà, il faut savoir, était fou. Charles VI, on l'appelait Charles le Fol. Il croyait qu'il était fabriqué en verre. Alors il se faisait recouvrir d'attelles en bois et refusait qu'on le touche de crainte qu'on le casse en mille morceaux. Et finalement, c'est son armée qui va voler en éclats le vendredi 25 octobre 1415. Il était tellement fou, le roi de France, quand on l'appelait en disant « Sire, sire, il y a un problème avec la France », il allait se planquer derrière un rideau de fenêtre, il disait « Je ne suis pas le roi de France. Je ne sais même pas où c'est la France. Moi, je m'appelle Georges.
George, oui. »
Donc ça donne un état du bonhomme.
Mais le contexte historique, ce sont les Anglais, en fait, qui, sous Henri V...
Henri V, apprenant que le roi de France était dingo, se dit « Je serais bien con, je vais en profiter pour attaquer la France. » Il arrive pour attaquer par la Normandie, à l'embouchure de la Seine, et son but, c'était de remonter la Seine, prendre Paris, prendre la France. Mais
il y a une résistance.
Il voulait prendre une petite ville fortifiée qui s'appelle Harfleur, et il n'y arrivait pas. Et puis, comme il pleuvait tout le temps, il y a la moitié de son armée qui meurt parce que les vivres ont pourri et tout. À un moment, il dit, bon, ok, 2 mois après, il dit, le coup n'est pas jouable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on remonte la côte à toute blinde jusqu'à Calais, qui était une ville anglaise, et puis on rentre chez nous boire des bières.
Les Anglais vont envoyer un émissaire pour proposer la paix. Ça, c'est inattendu. Oui. Et donc, ils vont voir les nobles qui sont en première ligne.
Et la chevalerie dit, mais pas du tout. Ah, mais c'est mal connaître la France et tout. On va faire la bataille. Quand ils ont voulu commencer la bataille, ils sont aperçus qu'en fait, ils étaient enfoncés dans la boue à mi-jambe. Alors déjà, à mi-jambe, pieds nus, c'est pas pratique. Mais en armure, c'est impossible. Et avant la bataille, ils étaient sur une dizaine de rangs, les Français, et ils avaient leurs lances. Mais les lances, à l'époque, mesuraient 4 mètres. Ce qui fait que tout le monde se prenait les lances dans le cul. Donc à un moment, ils ont dit, il y a un problème, il faut qu'on coupe les lances en deux. Et tout a été comme ça. Alors qu'ils étaient absolument sur deux, ils ont fait la fête la veille, ils ont fêté la bataille avant de la faire.
Ouais.
Et ils n'ont pas dormi de la nuit. Et le lendemain, ils sont arrivés en première ligne tous. Et certains disaient, putain, j'ai trop bouffé hier, je rentre plus dans mon armure. Mais toute la chevalerie a disparu en 3 heures.
C'est ça.
Et la noblesse française.
Vous vous approchez un peu de Rabelais avec ce genre de texte, Jean Tellet. Le burlesque est ce qu'on appelle le bas corporel chez Rabelais, à savoir le corps physique, sa sexualité et ses besoins. Vous êtes purement rablaisien.
Ben ouais, mais Rabelais, c'est absolument formidable.
Vous assumez.
Ah oui, oh là là. Ouais,
bien encore, vous avez été sage aujourd'hui, je trouve.
Vous avez vu un exemple pour la jeunesse.
Un exemple. Merci, Jean Tellet.
Toutes ces années passées avec Jean en filigrane resteront gravées en moi toute ma vie. Combien de temps nous resterons à l'antenne, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour de départ, j'emporterai avec moi tous ces souvenirs et ce sera ma grande richesse. Même loin de tout, je n'oublierai jamais Jean Tellet.
Monsieur Tellet, autant lui je l'aime que lui je l'aime pas du tout.
C'est qui lui que vous aimez ?
Jean-Philippe. Et il est grand comme moi, et il est très sympa, très souriant, et il n'a pas un caractère un petit peu désagréable comme le vôtre.
Bah dis donc, sacré retrouvaille. Alors j'étais en train de dire, un auteur qu'on connaît bien, qu'on retrouve au Festival du Livre de Paris, moi j'étais sympathique avec vous, ça va ? Vous allez bien ?
Mais oui, ça va, surtout quand je vous vois en fait, parce que je vous trouve très sympa.
Ah oui, ça a changé du coup.
Mais maintenant que je sais que ça passe à la radio, vous savez que c'est un métier. Hein. Les gens y croient qu'il suffit d'être artiste, mais non, c'est un boulot.
Et voici nos libraires qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Au Canada, c'est Mike Viennot de la librairie Monet à Montréal qui est avec nous. Bonjour Mike.
Bonjour Emmanuel.
Un mot sur Jean Tellet, je crois.
Si je devais résumer Jean Tellet en 2 mots, audace et talent.
Merci. En Suisse, voici Dominique Bressou de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel. Ben moi, je le résumerais par il était drôle et imaginatif.
Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. En France, voici Sophie Todescato de la librairie Les Temps Modernes à Orléans. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel. Moi aussi, je lui rends hommage, ce type populaire et truculent.
Et enfin en Belgique, c'est Nathalie Clérin à la Hulpe dans la librairie de la Mazerine. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel. Oui, alors moi, pour ma part, ce serait drôle et savant.
Oui, drôle et savant, ça va bien aussi. Merci Nathalie. Et voici Brigitte Giraud. Et bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Votre réaction à la mort de Jean Tellet, je sais que vous le connaissiez un peu.
Oui, bien sûr. On s'était croisés il n'y a pas si longtemps à Nancy, au Livre sur la Place, là, au mois de septembre. Et c'est tellement subi quand on voit cette personne tellement pleine de vie, d'impertinence, d'insolence, d'intelligence, doublée d'une position politique tellement impeccable. C'est terrible de disparaître d'un seul coup et personne n'est prêt.
Oui, c'est très brutal, c'est un vrai choc pour nous tous aujourd'hui. On retrouvera tout à l'heure Jean Tellet dans cet hommage et cette émission un peu spéciale qui lui est consacrée. Et on se met dans l'ambiance de votre roman avec la musique de PJ Harvey. Sur cette musique de PJ Harvey, Brigitte Giraud, on va parler de votre roman. Vous citez beaucoup de titres dans ce livre, car votre compagnon était un passionné de musique, un spécialiste aussi de la musique. Dans Vivre Vite, paru aux éditions Flammarion, un livre en lice pour le prix Goncourt, il y a une grande partie de votre vie. L'achat d'une maison, il y a un peu plus de 20 ans, et la mort de votre compagnon d'un accident de moto au moment où vous devez emménager. 20 ans plus tard, vous devez vendre cette maison où vous avez habité malgré tout avec votre fils, et vous dites à l'avant: j'ai vendu mon âme et peut-être la sienne.
Et oui, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à emménager seule dans cette maison avec mon fils, et le projet attaché à la maison n'était pas du tout celui qui était prévu, bien évidemment, mais comme quand quelqu'un disparaît subitement, et là on vient d'en parler avec Jean Tellet, tout ce qui était prévu, l'avenir, la construction de la vie doit se faire totalement différemment. Donc cette maison, au début, je l'ai détestée en fait. Je me suis battue contre elle, contre les éléments, contre la pierre, contre le bois, contre les herbes du jardin, puis petit à petit j'ai essayé de l'apprivoiser, de l'aménager, de finir par m'y sentir plutôt pas trop mal.
Oui, et puis, 20 ans quand même.
Et puis même bien en 20 ans, c'est vraiment un livre qui parle du temps. Et là, la pression sur le quartier avec les promoteurs est telle que ça devient sidérant, invivable, et que c'est une cruauté qui prend un peu tout le monde comme ça de force. Il faut quitter les lieux, et au moment où on quitte les lieux, c'est un arrachement qui permet de faire le point.
Alors le cœur de votre histoire, c'est la mort de votre compagnon, mais c'est aussi une réflexion sur les événements de la vie qui se produisent comme ça suite à des décisions et des hasards en cascade. On va y venir. À un moment, vous trouvez la maison, une petite maison avec un garage. C'est très important pour la moto, car votre compagnon a une moto, et vous faites tout pour avoir cette maison alors qu'elle n'est pas à vendre. Et à un moment, finalement, vous arrivez à convaincre le vendeur de la vendre, et vous écrivez: il était d'accord, l'abruti, il avait fini par être raisonnable. Et votre voix intérieure, dites-vous, aurait dû vous dire: non, n'y va pas.
Évidemment, après coup, c'est ce qu'on se dit. Quand on est dans l'énergie de l'action, moi j'étais portée par ce désir de voilà, cette petite maison avec un petit bout de jardin, et dans un quartier que j'aime énormément, dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans. En écrivant, je me suis rendu compte que j'ai aussi désiré ce lieu pour rendre possible l'impossible. C'était presque pour épater l'autre aussi. Parfois, on est capable de se dépasser juste pour dire à l'autre: regarde ce dont je suis capable. T'as vu comme je me bats pour nous. Et après coup, je me suis dit que... Alors, tout me disait qu'il ne fallait pas, voilà. Et il n'aurait peut-être pas fallu.
Alors, on va expliquer justement, parce que c'est à partir de là que les événements s'enchaînent rapidement jusqu'au drame. Car il se trouve que votre frère cherche un garage pour sa grosse moto le temps de quelques jours de vacances. Et si vous n'aviez pas eu les clés avant la signature de l'acte, si vous n'aviez pas appelé votre mère, votre frère n'aurait jamais garé sa moto chez vous.
Et oui, tout ce qui s'est passé les jours, les semaines et les mois avant l'accident, ce sont des hasards bizarres, des coïncidences étranges. Rien ne s'est passé comme ça aurait dû. Et quand on met bout à bout toutes ces décisions un peu bizarroïdes, ça crée une espèce d'arbre généalogique qui conduit inéluctablement à la catastrophe. Ce qui fait que ce livre interroge évidemment la notion de destin. Est-ce que le destin existe? Est-ce qu'on n'aurait pu empêcher, si l'une de ces actions n'avait pas eu lieu, si l'une des pièces du puzzle ne s'était pas emboîtée, l'accident ne pouvait pas se passer.
Voilà, c'est une moto très particulière, on va en parler dans un instant, que va essayer votre compagnon quand vous n'êtes pas là, parce qu'il se trouve qu'au même moment, vous devez partir à Paris afin de voir votre éditeur pour votre deuxième roman. Et là aussi, il y a encore un événement, il y a encore une sorte de coïncidence hasard, c'est que vous n'êtes pas là à ce moment-là.
Et oui, moi je déplace mon aller-retour à Paris parce que nous avons les clés à l'avance. Donc je change le jour de cet aller-retour. Ensuite, je suis à Paris chez une amie. Je dois téléphoner pour dire quelque chose d'essentiel. Ce coup de fil pour X raisons que je raconte dans deux ou trois pages, je ne le passe pas. Et en fait, cet enchaînement fait que, je mets en place sans le savoir, évidemment, les conditions qui permettent... à l'accident d'avoir lieu.
Bon, on va laisser la parole à nos libraires avant de poursuivre cette conversation. Nos auditeurs vont tout comprendre, on va pas tout raconter, mais il y a plein de choses dans cet ouvrage, dans ce roman. On va donner la parole au Canada. Tiens, Mike Vienno, c'est à vous.
Oui, ce récit, c'est le calcul des hasards et des possibilités. C'est intime, mais jamais déstabilisant. C'est personnel, mais jamais envahissant. J'aime cette pudeur qui nous laisse entrer dans votre vie sans nous offrir tout l'espace. Et j'aime cet espace que vous nous déployez sans nous livrer tout de votre vie. Cette simplicité de l'écriture, cette finesse des mots, cette douleur dans les petits détails. Vivre, c'est dangereux. Vivre vite l'est encore plus. Mais vous lire lentement, c'est un réconfort.
C'est vrai qu'il y a une grande simplicité dans votre écriture, Brigitte Giraud. C'est un livre accessible à tous. C'est très bien construit, d'ailleurs, je trouve. Il y a quelque chose de très fort dans la construction même et dans l'écriture simple.
En fait, ce sont 23 petits chapitres qui commencent par la proposition « si ». Si je n'avais pas fait des pieds et des mains pour avoir les clés à l'avance, si cette moto n'avait pas été commercialisée en Europe, etc., etc., c'est de petits chapitres qui s'enchaînent comme par un effet domino. Et je pense qu'à la lecture, ça va sûrement... assez vite.
Allez, Dominique Bressoux, pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Moi, je me suis complètement laissée prendre au jeu des suppositions de ce livre, entraînée par les dominos du destin et par l'injustice du mauvais sort. Mais ce que j'ai trouvé terrible, c'est à quel point la souffrance est toujours là, intacte, même 20 ans après. Et cela, l'auteur sans pathos nous en rend parfaitement conscient. Et ça m'a beaucoup émue.
Bien, Nathalie Clairin, pour la Belgique, êtes-vous d'accord ?
Oui, Emmanuel, eh bien, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour le style de Brigitte Giraud, percutant comme une flèche, il atteint en plein cœur. Alors, au-delà du cri, vous nous plongez dans une réflexion si pertinente sur nos désirs, désir de s'agrandir, désir de posséder, sans perdre de vue la fragilité de nos existences. Et pour ça, Brigitte Giraud, je vous dis merci.
Voilà, l'avis de nos libraires. Brigitte Giraud, vous les avez séduits apparemment, tous.
Bon, c'est très agréable. Je me suis rendu compte à l'écriture de ce livre que finalement ce livre est une histoire d'amour. Je l'avais pas vu venir en l'écrivant. C'est aussi le portrait d'un homme, c'est aussi le portrait d'une époque, le portrait d'une ville. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture intime, c'est pas tant de parler de moi, mais c'est de voir comment nos vies intimes résonnent avec le collectif.
C'est une interconnexion, en fait. Oui.
Voilà, et l'histoire de cette moto en est l'illustration.
Alors, l'histoire de la moto. Justement, une Honda 900 CBR Fireblade. C'est son nom, son appellation. Votre compagnon va l'essayer en votre absence. Il va se tuer avec. On ne va pas tout raconter, Brigitte Giraud, mais il s'est tué avec une moto japonaise juste en l'essayant. Car il faut savoir que la puissance de cet engin est diabolique. Même les Japonais n'ont pas voulu la commercialiser. Vous avez fait une enquête d'ailleurs à ce propos.
Oui, mais ce livre est une enquête. Le livre est une enquête sur nos vies, sur nos décisions, sur nos choix, sur ce qu'est un couple, ce qu'est une famille, et sur la question du danger. Qu'est-ce qui fait qu'un homme responsable, qui a une quarantaine d'années, qui dirige un établissement important, qui est journaliste, musical, va un matin, justement en profitant sans doute du fait que je ne suis pas là, essayer une moto qui ne lui appartient pas, pour laquelle il n'est pas assuré. Qu'est-ce qui fait qu'il va se mettre en danger ? C'est un livre qui questionne aussi cette part de mystère. Et c'est vrai que j'ai enquêté aussi auprès évidemment de la firme Honda et de ce fabuleux ingénieur Tadao Baba qui a mis au point ce moteur fou qui était fait pour la course et pas du tout pour la ville, donc interdit au Japon, réservé à l'exportation, notamment vers l'Europe et vers la France, ce qui est un scandale absolu évidemment.
Absolu. Oui, les Japonais disent c'est une moto trop dangereuse, elle est faite pour les circuits et même si on l'a adaptée à la route, nous on n'en veut pas. C'est ça en fait qui se passe.
C'est exactement ça, et là c'est aussi le mystère, mais on comprend ô combien ce libéralisme qui nous étrangle et qui nous tue finalement.
Alors avec Dessy, Brigitte Giraud, on refait sa vie, c'est ce que vous êtes tenté de faire. Vous dites que si vous n'aviez pas fait ça, s'il n'y avait pas eu ça, si la météo avait été différente, si vous étiez resté chez vous, si Claude avait écouté une musique apaisante de Coldplay par exemple, au lieu de Death in Vega, si, cela aurait tout changé.
Oui, avec évidemment des chapitres qui sont aussi en lien avec l'ironie, parce que je me vois faire, je me vois enquêter, je me vois essayer de trouver à rebours, finalement, une autre issue à cette histoire. Je ne m'étais pas rendu compte en écrivant que 20 ans après, j'essaye encore de faire en sorte que l'accident n'ait pas lieu. Et à un moment, je parle de l'accident qui a eu...
Stephen King.
Qui a eu Stephen King, qui a eu Stephen King 3 jours avant Claude. J'essayais de voir quelle est l'info mondiale, internationale, qui aurait pu faire en sorte qu'il se rappelle que vivre est dangereux.
Ouais.
Et je me suis dit que si Stephen King était mort dans cet accident, plutôt que grièvement blessé, peut-être que ça aurait alerté Claude. Donc c'est aussi l'écriture, c'est aussi organiser la folie, mais j'en suis parfaitement consciente. Et parfois, je me moque beaucoup de moi.
Oui, c'est un appel à l'apaisement aussi, ce livre, hein, Brigitte Giraud, avec la musique de Coldplay, par exemple, de l'époque que vous citez. Beautiful World, le titre c'est Don't Panic. Une musique qui vous apaise aussi, Brigitte, aujourd'hui, ou qui vous fait mal?
Ah, c'est vraiment la bande-son de l'époque. Le livre propose une bande-son assez intense, puisque Claude était critique musicale. On écoutait beaucoup de musique, on allait beaucoup au concert, on vivait vite en effet. Et je suis restée pendant pas mal de temps dans l'impossibilité d'écouter de la musique. Voilà, aujourd'hui je suis réconciliée, on va dire, avec moi-même, et j'écoute beaucoup de musique, et là où je me sens bien, c'est principalement avec des musiciens.
Bon, merci beaucoup Brigitte Giraud, merci à vous.
Merci à vous.
Vivre vite est paru donc aux éditions Flammarion. Je ne sais pas si on va vous donner le prix Goncourt, mais en tout cas, votre roman va parler à tout le monde, à ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui ont vécu des transactions immobilières, à ceux qui se sont dit aussi « et si j'avais fait autrement ?» Et si les choses s'étaient passées autrement à un moment donné, que serait ma vie aujourd'hui ? C'est beau, c'est fort, c'est précis et intense. Il y a un supplément d'âme dans ce roman. Juste un supplément d'âme. Merci beaucoup, Brigitte.
Merci à vous. Merci
bonne chance, en tout cas. À suivre dans la librairie, une BD signée Pierre-Henri Gaumont autour de la Russie des années 90 avec deux personnages loufoques et la suite de notre hommage à notre ami Jean Tellet, disparu prématurément. C'est un grand choc, mais avant, voici le nouveau titre de Jojoa et Lieutenant Nicholson qui chante la vie.
Quelle belle planète, tous le cœur en fait. J'adore
les oiseaux,
j'adore
en vol synchronisé,
j'adore
la forêt,
j'adore
pousse sur les racines,
j'adore
cachalot,
j'adore
c'est son doigt cacher l'eau,
j'adore
pangolin,
j'adore
sauver les pangolins,
j'adore.
Les traités
encore
les copains.
Le nouveau titre de Jojoa et Lieutenant Nicholson avec Planète dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, première partie, avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de gueule en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel, moi, c'est un coup de gueule vert et vert de rage. Oui. À la librairie récemment, on voit de plus en plus de livres livrés seuls dans une grande boîte. Mmh. Alors, à l'heure où les transports sont si chers, on n'aime déjà pas multiplier les envois. Mais quand ils arrivent emballés, comme nous avons vu, dans 3 mètres de bulles en plastique, ben, on crie carrément au secours.
Un seul livre ?
Un seul livre, je vous l'assure.
C'est pour le protéger.
Je pense pas que ce soit vraiment du luxe.
Oui, oui, c'est un peu trop. Bon, bravo pour ce coup de gueule, Nathalie. C'est vrai qu'on constate de plus en plus de grands cartons pour de petits objets. C'est valable aussi pour la vente par correspondance. Un coup de cœur en France, Sophie Todescato, dans le rayon des bandes dessinées.
Oui, c'est un coup de cœur pour Pas de baiser pour maman, la bande dessinée que le dessinateur Mathieu Sapin a tirée du roman de Tommy Ungerer, grand auteur pour la jeunesse, auteur des fameux Trois Brigands. Alors, Pas de baiser pour maman, c'est un classique et son personnage principal de chat, pas mignon du tout, qui fait pleurer sa mère, cette mauvaise graine rebelle aux bisous et aux mots doux, est vraiment de la trempe des grands personnages de BD. Ce qu'en a fait Mathieu Sapin, en tout cas, c'est à mi-chemin entre l'hommage, l'adaptation et la réinvention, mais c'est en tout cas à l'exact auteur du grand Ungerer, c'est vraiment génial. C'est à lire à partir de 7 ans aux éditions Rue de Sèvres.
Parfait, pas de baiser pour maman, effectivement. Merci beaucoup, Sophie.
La BD, de la librairie francophone.
Bonjour Pierre-Henri Gaumont.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous avant de parler de votre bande dessinée Fleuve sur la Russie des années 90 avec deux personnages loufoques. On va écouter un grand nom de la BD qui nous a quittés. Donc Jean Tellet avait commencé sa carrière dans la BD avec grand succès. Nous l'avions reçu pour l'adaptation graphique du Montespan à la Foire du Livre de Bruxelles en 2010. On était en public et il était déchaîné. Écoutez. Alors vous le savez, Jean Tellet, cette émission est diffusée dans tous les pays francophones à travers le monde. Des expressions, on en connaît pas mal, mais on en découvre dans le Montespan aussi des expressions de l'époque. Par exemple, que signifie se faire rôtir le balai, Jean ?
Se rôtir le balai, c'est baiser, c'est-à-dire se foutre la queue dans une dame, ben voilà, par exemple, ou un monsieur. Enfin, c'est ça, se rôtir le balai. Il y avait aussi...
Il dit ça avec un sérieux, je sais pas comment il fait. Très littéraire, hein, Jean Tellet.
Il y a aussi, par exemple, quand on voulait dire de quelqu'un qu'il était homosexuel, au XVIIe siècle, on disait « il va à Naples sans passer par les ponts ». Je n'ai jamais compris cette expression et je ne vois pas comment on peut aller à Naples autrement qu'en passant par les ponts. Une femme qui avait ses règles, elle disait « le cardinal loge à la motte ». Et j'ai voulu retrouver toutes ces expressions pour les remettre là-dedans. On se traitait aussi de fils de prêtre, de cuvert. Et je trouve que ça donne du réalisme.
Hein. Cuvert, c'est pas mal. Cuvert, hein, ça, ouais. Je vais ressentir ça. Jean, vous venez de la bande dessinée, on le sait tous, vous avez commencé comme ça, vous avez 11 BD à votre actif, et là vous adaptez avec Philippe Bertrand un de vos romans qui a connu un très gros succès, je crois 500 000 exemplaires vendus, La boucle est bouclée.
Eh ben oui, et
vous pouvez arrêter.
Ben, mais complètement. Mais moi, je pensais que c'était fini la bande dessinée en 90, parce qu'en 1990 à Angoulême, ils m'ont remis un prix qu'ils n'ont plus jamais remis à personne, un prix pour contribution exceptionnelle au renouvellement du genre de la bande dessinée. Quand m'a donné ça, j'ai cru que j'étais mort.
Vous l'avez eu ce prix du renouvellement, Pierre-Henri Gaumont ? Non.
Pas vraiment, non. Non, mais en tout cas, on est vraiment reconnaissant à cette génération qui a sans doute contribué à tout changer pour la bande dessinée.
Vous connaissiez l'œuvre de Jean Tellet, bien sûr.
Oui, oui, absolument, absolument. Enfin, j'ai particulièrement en tête l'œuvre qu'il avait faite avec Florence Sestac sur Charlie Schlingo, et qui est magnifique.
Oui, on pense évidemment à Florence Sestac aujourd'hui, qui était son amie, à Patrice Lecomte, à plein d'autres, évidemment, Miu Miu, évidemment, sa compagne. Pierre-Henri Gaumont, vous publiez donc Slava, tome 1 aux éditions d'Argo. C'est une BD qui aurait plu à Jean Tellet, car il y a beaucoup d'humour sur un sujet grave. On est en Russie à la fin des années 90, c'est un choc social à cette époque, car la Russie est libérée du communisme, elle est livrée aussi en pâture au capitalisme, et c'est tout aussi sauvage.
Oui, c'est sauvage et il n'y a plus d'idées maîtresses, il n'y a plus d'idées directrices pour structurer cette société. Et c'est en ça que l'effondrement est peut-être encore plus difficile à suivre pour la population. Quelque chose qui est très sensible hein, quand on se promène dans ces pays-là. quand on lit les livres qui ont été faits sur la période. Et moi, ça m'a beaucoup étonné et intrigué.
Ouais. Alors, il y a deux personnages dans votre histoire. Il y a des sortes de pieds nickelés, hein, on peut dire ça. Hein,
vous assumez
la caricature, qui se sont associés pour piller les richesses abandonnées par le régime. Il y a des endroits effectivement sublimes, des palais de marbre, pleins d'objets d'art, qui ont été désertés à l'époque.
Oui, absolument. Enfin, qui ont été à la fois désertés et effectivement pillés. Hein. Là, ouais. En l'occurrence, ces termes-là qui vont être pillés se trouvent en Géorgie, à la frontière entre la Russie et la Géorgie, dans le Caucase. Et c'est encore des bâtiments qui sont magnifiques, mais qui ont été désossés. Il n'y a plus rien de ce qui a fait la richesse de ces églises du peuple, en fait.
Ouais. Et on voit effectivement le scandale des richesses que se sont octroyées les oligarques. Parce que vous l'expliquez très bien, c'est très didactique, hein, cette bande dessinée, l'air de rien. Les richesses de la Russie, en théorie, selon le dogme communiste, elles appartenaient au peuple.
Oui, absolument.
Et mais c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Non, ça a été organisé vraiment de façon... on abordera ça plus en détail dans la suite de l'histoire, mais ouais, ça a été fait un peu en dépit du bon sens, et puis avec une corruption qu'on n'imagine pas. Parce que toutes ces entreprises-là ont fait l'objet d'enchères, mais toutes ces enchères ont été truquées, et surtout, le peuple russe n'a pas voulu de ça. C'est-à-dire que cette façon de brader tout un pays, tout ce qu'ils avaient contribué vraiment au prix de leur propre famille, hein, tout ce qui avait été érigé, le brader comme ça, sous forme d'enchères, le peuple n'en a pas voulu. Et c'est cette façon de refuser ce qui était en train de se passer, qui m'émeut.
Et vous dites être en empathie avec ceux que vous nommez les Kidam russes. Vous racontez qu'un peuple ne se réduit pas à son régime, ce qui n'est pas faux. Mais le régime de Poutine aujourd'hui, les Russes n'y sont pour rien, vous croyez vraiment cela, vous ?
En tout cas, sur le choix qui est fait de déclarer la guerre à l'Ukraine,
ça,
ils sont
autre
pour
chose,
rien.
Oui, oui.
Mais évidemment, c'est eux qui mettent Poutine au pouvoir.
Beaucoup soutiennent Poutine aujourd'hui.
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tout ça s'explique assez bien et que ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est-à-dire l'humiliation, joue un rôle important là-dedans. C'est-à-dire la façon dont l'Occident a interféré dans les affaires de la Russie, justement, pour faire ce qu'on appelait à l'époque la thérapie de choc. Enfin, il faut quand même considérer que nous sommes en bonne santé et eux sont malades pour imaginer qu'on va faire une thérapie. C'est loin d'être aussi clair pour nous comme pour eux. Et donc, je pense que le fait que Poutine soit au pouvoir aujourd'hui s'explique en grande partie par cette période-là.
Alors, à la fin des années 90, il y a donc un monde de corruption que vous décrivez tout au long de cette bande dessinée. Tout s'achète, tout se vend, vos personnages l'ont bien compris, surtout Lavrine, Dimitri Lavrine, qui dira par ailleurs « La beauté du capitalisme ne consiste pas à pouvoir acheter n'importe quoi, mais à vendre n'importe quoi ». Il veut être de ce côté-là de la barrière, lui.
Bien sûr, il veut être de ce côté-là de la barrière, et il est très inspiré de quelqu'un que j'ai rencontré, non pas en Russie, mais quand j'ai débuté ma carrière, à l'époque j'étais consultant, et c'était quelqu'un qui me disait « Non, mais... si tu veux t'enrichir, il faut pas acheter. Faut jamais être pressé d'acheter. Il faut toujours être pressé de vendre. Ce qui a ses limites, hein, mais qui était un type très drôle. Et je m'étais toujours dit, ce type-là, dans la jungle qu'est la Russie, dans les années 90, ça doit être formidable.
Il aurait eu sa place, oui, ouais. C'est ça. Allez, les libraires, on lit votre bande dessinée, Pierre-Henri Gaumont, avec Mike Viennot au Canada qui adore la BD.
Oui, c'est fascinant de plonger dans l'intérieur de cette URSS. Il y a un froid sibérien, il y a la chaleur du peuple et un art de raconter tout en tourbillon avec un trait de dessin distinctif et des personnages uniques. Un petit cours de société moderne exhibé de l'intérieur avec en prime un très grand plaisir de lecture.
Oui, Nathalie Clairant, en Belgique, êtes-vous d'accord?
Entièrement, Emmanuel. Moi, quand une BD de Pierre-Henri Gaumont arrive à la librairie, je déroule le tapis rouge. Alors, il fallait cet ouvrage pour rappeler qu'un régime peut être détestable, mais pas un peuple. Et c'est un scénario bien ficelé, un parfait équilibre d'action et de commentaires. C'est porté par un dessin de génie, ouais. Je n'ai pas peur des mots, dont la finesse et la caricature y font bon ménage. Pierre-Henri Gaumont, tout est bon chez vous.
Voilà, vous avez séduit nos libraires.
Merci.
Bon compliment. Ils vont se retrouver dans une embuscade, vos personnages, avec d'autres pilleurs, et être sauvés par une jeune femme et son père. Le père, c'est un géant, tout le temps en slip, hein. Il n'a jamais froid, cet homme-là.
Oui, absolument. Ouais. Ouais.
C'est une caricature de vous-même ou non ?
Pas de moi-même, non, mais voilà, j'avais passé un peu de temps en Biélorussie et j'ai rencontré un dénommé Volodia qui avait la fâcheuse tendance à se trimballer en slip par moins 20.
Bon, elle travaille à la mine, et il y a un projet de restructuration, comme on dit, avec une méthode ingénieuse qui va se propager, d'ailleurs, par la suite dans le monde entier, et qui consiste à acheter une entreprise pour 1 euro, 1 dollar ou 1 rouble symbolique. Et Lavrine essaye d'expliquer ça aux travailleurs, que c'est une idée lumineuse,
Oui, absolument. Lui n'a aucun recul. Lui trouve ça formidable parce que tout ce qui permet de faire de l'argent, et sans jamais considérer qu'on est en train de spolier qui que ce soit, ça n'est pas son problème. De toute façon, lui, il n'est pas là pour dire si quelque chose est bien ou pas bien. Quand il dit quelque chose, c'est pour agir, et quand il agit, c'est pour gagner de l'argent.
Et le représentant des mineurs dira « Nous autres Russes, on ne sera peut-être jamais un peuple riche, mais on est un peuple fort ».
Oui, je crois que ça a été quelque chose qui a beaucoup compté dans la façon de créer l'homme, l'homme rouge, l'homme soviétique, l'homo soviéticus, comme on disait. C'était la force, c'est ça qui comptait. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte beaucoup hein, dans le fait que Poutine soit à cette place-là. C'est parce que il redonnait, d'une certaine manière, une force à la Russie qui avait totalement quitté hein, le pays dans les années 90 sous Eltsine.
Oui, c'est la poigne, la force qui intéresse effectivement les Russes. Il y a le comptable de la mine, du coup, dans votre histoire, qui va avoir une autre idée. Quitte à se servir et à être corrompu, autant que ça serve les employés et les familles. Et le père de Nina dira « On est des Russes, on survit, le trafic coule dans nos veines ». On va pas tout raconter, mais ça donne un indice.
Oui, absolument, parce qu'il y a quelque chose d'assez... étonnant et beau à la fois quand on discute hein, avec des gens qui ont connu le communisme, il y a une forme de fatalisme, comme si ils étaient un petit peu à part et que de toute façon, hein, le monde court à sa perte et ils embrassent cette cause-là sans plus de distance que ça et sans plus de rébellion que ça. Voilà.
Bon. Merci beaucoup, Pierre-Henri Gaumont. Cette bande dessinée Slava, tome 1, après la chute. Il y aura deux autres épisodes, hein, c'est ça?
Oui, absolument.
Bon, on suivra parce qu'on a vraiment envie de lire la suite. À la fin, il y a Lavrine qui se retrouve dans une situation un petit peu indélicate. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, j'ai imaginé, mais on doit lui couper quelque chose, quoi.
Moi, je ne sais pas.
C'est chez Dargaud. C'est une BD qui joue avec le roman graphique, parfaitement réalisée et passionnante. Merci beaucoup, Pierre-Henri.
Merci à vous.
La suite de notre hommage à Jean Tollet dans un instant, juste après le nouveau titre de Tiken Jah, Fakoly, dans la librairie francophone.
Ils sont nombreux, tu sais, à n'être jamais arrivés. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées, à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route, à croire un miracle. Nombreux ont connu la déroute. Combien de mères ne reverront jamais leurs fils? Combien de mères pleurent ceux qui sont partis? Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. Le cauchemar. Et quand tu te réveilles, il est souvent trop tard. J'ai vu couler des larmes quand l'espoir devient désespoir. Je peux raconter les drames de ceux qui n'ont pas voulu voir. Que crois-tu qu'ils ont trouvé? Ce parti avant toi, s'il pouvait, il te dirait: ne prends pas ce bateau, écoute le sens du message. Ne prends pas ce bateau qui mène tant de vies au naufrage. Combien de mères ne reverront jamais leur fils? Combien de mères plaisent ceux qui sont partis? La traversée est dangereuse.
Le nouveau titre de Tikkun Jafakoli, extrait de son nouvel album, apparaître le 4 novembre. Tikkun, que vous pouvez retrouver dans la version télé de la librairie francophone, ce dimanche soir sur RTBF La 3, lundi soir sur ICR TV de Radio-Canada, puis dimanche prochain à 11h sur TV5 Monde et lundi 31 sur RTS2. Nous diffuserons aussi un extrait de cet entretien très fort sur l'Afrique actuelle à la radio prochainement.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La chronique des libraires, seconde partie, Dominique Bressoux en Suisse. Un coup de cœur, je crois.
Oui, un coup de cœur pour un roman qui s'appelle « Les corps solides » de Incardona. Alors, ceux ou celles qui ont lu d'autres romans de Joseph Incardona le savent déjà, il écrit avec ses tripes. Mais là, en plus... Il y a mis son cœur, parce que les catastrophes s'enchaînent dans la vie de Anna, la mère et de son fils, jusqu'à aboutir à la galère totale. Dernière chance, Anna va participer à un jeu télévisé particulièrement crétin pour gagner. Garder sa main le plus longtemps possible sur une voiture au milieu de 20 candidats. Voilà. C'est une satire absolue de notre société, mais c'est en plus une très très belle histoire d'amour filial et maternel. D'accord. C'est vraiment un livre à dévorer.
Les corps solides de Joseph Incardona aux éditions Finitude. Merci Dominique. À coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Oui, il y a quelque chose de désagréable lorsque certains médias annoncent la sortie d'un livre à la veille de sa sortie par le distributeur. Mm-hmm. Faisons un petit calcul, le livre expédié arrive en librairie, sorti des cartons, il peut y avoir 2-3 jours de différence. Et la clientèle qui s'en remet à la télé ou au journal, oui, je vous le dis, ils l'ont mentionné en librairie aujourd'hui. Oui. Oui, mais les petites librairies indépendantes n'ont pas une horde de déballeurs qui ouvrent les boîtes à la vitesse de l'éclair. Ah. La clientèle qui fait la gueule parce qu'elle ne trouve pas assez rapide, le livreur n'est pas encore passé. Faudrait juste dire en librairie, dans les prochains jours à venir, cela éviterait les malentendus ou des « oui, j'ai, mais moi, je l'ai bien entendu ».
D'accord. Oh là là, vous êtes remonté, hein. Vous chipotez Mike, hein, quand même, là.
Mais non.
Bon, ne vous précipitez pas en librairie. J'ai jamais dit ça dans cette émission, mais voilà, c'est la morale de l'histoire. Attendez un petit peu.
Très bien, ça, c'est bien.
Merci, Mike. On termine cette émission avec deux moments de radio vécus avec Jean Tellet, qui nous a donc quitté cette semaine prématurément à l'âge de 69 ans. On commence avec l'extrait d'un reportage et une histoire personnelle étonnante qu'il nous avait racontée au Jardin des Plantes à Paris.
Je trouve que c'est un endroit magique. Il y a une impression, un sentiment d'être au 19e siècle. On se croirait aussi dans une bande dessinée de Tardy et tout. Il y a un zoo avec, là, on a des flamants roses devant nous, des fauves. Et quand j'étais jeune, je me souviens que quand je passais le soir, après avoir fait la fête sur le quai, j'entendais de l'autre côté des grilles des grognements de fauves et tout. Je trouvais ça incroyable.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fauves.
Ouais.
Alors, il y a des fauves, il y a aussi des serpents. Et c'est ça que vous voulez voir. Il y a un vivarium là, juste on est à l'entrée dans cette ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. On va entrer parce que vous avez une histoire particulière avec les serpents et on va en voir un très imposant.
Ouais, c'est une vipère du Gabon.
Oui, alors allons-y. Voilà, donc ça va résonner un petit peu, vous allez entendre, avec plein d'aquariums, enfin de vivariums autour de nous. Évidemment, on est protégé par des vitres.
Et c'est sombre, il y a des petites mosaïques.
Alors là, on a un gecko géant de Nouvelle-Calédonie qui se confond parfaitement avec un petit tronc d'arbre. Il y a une sauterelle d'ailleurs à côté, à mon avis, c'est pour... c'est pour son repas de ce midi ou de ce soir. Et voilà, donc la vipère du Gabon, reptile de l'Afrique de l'Ouest, qu'on trouve de la Guinée au Togo, avec une tête triangulaire énorme.
Ouais, ça donne pas envie de la croiser, effectivement, dans la nature.
Alors pourquoi les serpents ?
Parce que justement, à chaque fois que je viens ici, ça me rappelle cette histoire que j'ai vécue en Martinique. Il y a une trentaine d'années, j'étais encore dessinateur de bande dessinée, et j'aimais bien faire des reportages un peu partout dans le monde, où je cherchais des dingos, des gens originaux et tout, et on me dit, ah ben il y en a un qui est pas très loin ici, sur la montagne Pelée, à Mandecapo. C'est un type qui s'appelle Emmanuel Alexandrine, qui est un type très dangereux, tueur et tout, et qui vit tout seul dans une forêt et tout, et qui ramasse des trigonocéphales. Les trigonocéphales, c'est des serpents martiniquais qui ont une tête en triangle et tout, et qui ont un venin hyper mortel.
Comme la vipère du Gabon derrière.
Voilà.
Mais en plus petit.
Voilà. Et je leur dis, bah, je vais aller le voir et tout, est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour le rencontrer ? Et à la radio, ils disent... nous, on va pas le voir, ce type-là, il est vraiment trop dingue, trop dangereux. Et il y en a un qui me dit, moi, je veux bien vous emmener à Montiapo, à l'entrée de la forêt, et je vous indique, mais j'y vais pas, personne ne veut rencontrer ce mec-là. Et j'y vais, il me laisse à l'entrée du chemin, et il me dit, ben voyez, là, il y a un sentier, vous marchez peut-être une heure et demie, puis vous allez forcément tomber sur le type. J'y vais, et je vois une petite cabane en tôle et tout ça, et je vois un type qui en sort noir, très maigre, très beau, et avec des yeux bleus intenses, incroyables, et un regard bizarre, un regard de serpent. Et je lui dis, alors il paraît qu'on a tué sa mère, j'avais appris qu'il avait tué sa mère. Il dit, oui, je l'ai empoisonné avec du boudin à cochon, je dis, très bien et tout. Et pendant qu'il me raconte tout ça, je vois qu'avec un crochet, les petites cages qu'il y avait autour de moi, il soulève une trappe grillagée, verticale, comme ça, et il les ouvre les unes après les autres, et moi je regarde tout en parlant, et puis je vois des serpents qui sortent tout tranquillement de chacune des cages, tout autour de moi. Et puis là, je me dis, mais monsieur Alexandrine, mais qu'est-ce que vous faites Et il me dit, je suis méchant, je suis même l'être le plus méchant sur Terre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, ben, ils vont vous attaquer, ils vont vous tirer à la cheville, vous allez aussitôt ressentir une très grande brûlure, dans 5 minutes, votre cheville va gonfler comme une épaule, elle sera marbrée, dans 10 minutes, vous allez avoir des pulsations irrégulières du cœur, dans 20 minutes, vous allez devenir aveugle, aurez très mal au ventre, et dans une demi-heure, je vous enterre dans la forêt. Et moi, j'étais là, putain, je vais mourir dans la forêt de Montiapo. Et puis, finalement, il ramasse un peu ses serpents, il les range vaguement. Moi, j'étais blême, j'avais la bouche sèche. Il me voit, il me dit, je vais vous donner à boire. Alors, je rentre dans sa cabane, je vais pour poser le gobelet sur la table. Oh, une migale. Je regarde autour de moi, il y avait des migales partout. Et puis j'ai dit, bon ben ça va aller, monsieur Emmanuel Alexandrine, je vais rentrer, et je suis parti, et je me suis dit que plus jamais je reviendrai à Montiapo, mais en revanche, j'aime bien revenir au Jardin des Plantes, parce que ça me rappelle cette histoire.
Bon, on va parler de Baudelaire vite fait pour terminer, Jean Tellet, parce que dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, il y a un poème qui s'appelle Le Serpent qui danse, dans lequel il évoque sa maîtresse Jeanne Duval.
Exactement, qui a été le grand amour de sa vie. Ils ont vécu 20 ans ensemble, avec des ruptures extrêmement violentes et tout, et c'était une femme très 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 bizarre, et ça a été le grand amour de sa vie.
Jean Tellet, passionné de Baudelaire, avait publié « Crénom Baudelaire » chez Mialet Barreau en 2020, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Le voici qui parle du poète, à sa façon, toujours avec humour, comme je vous le disais au début de l'émission. Jean Tellet, donc, après Verlaine et Rimbaud, vous vous attaquez à une autre grande figure de la poésie, Charles Baudelaire. Dans Crénom Baudelaire, vous racontez toute sa vie, en commençant par la fin, à la sortie d'une église de Namur, en Belgique, il tombe sur le front.
Il tombe sur le front et en tombant, il dit « crénom ». Comme nous, par exemple, si en faisant tomber un truc, on pourrait dire « oh merde ». Il tombe en disant « crénom », qui est la contraction de « sacré nom de Dieu
ouais. ».
Et il est resté bloqué sur ce mot pendant plus d'un an. Jusqu'à sa mort, il n'a pas dit un autre mot que « crénom ».
C'est ça.
Et quand on a été l'Everest de la poésie, qu'on a tellement inventé de phrases, d'images et tout, terminer sur un mot aussi con, c'est quand même pas de bol.
Bon, Jean Tellet, vous décrivez Baudelaire comme un homme brutal sexuellement. Il va très loin, trop loin.
Ah oui, une de ses maîtresses dit de lui, avoir une relation intime avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et lui disait, la volupté gît dans la jouissance de faire le mal. Il adorait ça. Et puis, il n'aimait pas les femmes belles. Il préférait les moches et les maigres. Il disait que les femmes maigres étaient plus nues que les autres. Et la première qu'il a rencontrée était une petite prostituée juive qui louchait, qu'on appelait Sarah la louchette. Et il disait qu'il avait voulu d'elle parce qu'elle était comme une ficelle avec des nœuds. Mmh. Il aimait les femmes différentes. Après, il a vécu avec Jeanne Duval, qui était une très grande grande femme noire.
Grande histoire. Toute sa vie.
Histoire d'amour. Ouais. C'est vraiment du niveau de Roméo et Juliette. Ouais. C'est ça qui est incroyable.
L'éditeur hallucine avec lui. Il demande aux deux associés Poulet Malassi. Il s'appelait vraiment Poulet Malassi, l'éditeur.
Absolument. Et lui, il a vraiment toujours appelé que Coco Malperché. Et il disait qu'il n'avait pas de bol parce que son premier éditeur, quand il avait fait le compte rendu annuel en 48 du salon de la peinture au Louvre, son premier éditeur s'appelait Jules Labitte. Le deuxième s'appelait Poulet Malassi. Les Fleurs du Mal étaient distribuées par la librairie Connard et Compagnie.
Non, c'est vrai.
Mais oui. Et à son procès, son procureur s'appelait Pinard. Il disait « Je suis maudit ». Et tout est vrai.
Bon, il y a des histoires incroyables. À un moment, Baudelaire donc demande à son éditeur, à ses éditeurs, ils sont deux, il demande de prévoir une édition spéciale avec une couverture en peau de guêpe.
Voilà.
Et alors, la guêpe, c'est...
Une salope.
Non, la prostituée, genre.
Oui, bon, bah, une pute, alors.
Non, mais non. Ah, une heure de grande écoute, genre. C'est une prostituée, c'est la définition de guêpe à l'époque, c'est un mot ancien. Et il veut, comme ça, avoir de la peau humaine.
Voilà, il se demandait laquelle. Il disait, si c'est la peau du dos, c'est peut-être mieux pour faire une couverture parce que c'est plus épais. Quoique ça soit peut-être trop fin, si c'est la peau des seins, ça pourrait être pas mal parce que le mamelon tanné, ça ferait comme un médaillon central au milieu de la couverture.
Il dit ce serait plus joli.
Ce serait, voilà. Mmh. Et son éditeur, là, lui avait dit, une phrase formidable, il avait dit « Mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus. »
C'est la plupart du temps. C'est ça. Il est malade, en fait. Il est malade toute sa vie de la syphilis. À l'époque, on ne la soigne pas comme aujourd'hui. Non. Et il se drogue, du coup, avec de l'opium.
Voilà.
Des gouttes d'opium. Ah, on lui dit d'en prendre 7, 10 grands maximum. Voilà. Il en prend
1600
par jour.
Par jour.
Ah oui.
Et il prenait aussi de la confiture verte qui était du hashish, l'équivalent d'une barrette de shit à jeun dans le thé du matin. Il y a de quoi écrire des poèmes à la con. Hein, quand même.
Voilà, Jean Tellet est parti sans nous dire au revoir. Sa personnalité unique va manquer à tout le monde. On ne retrouvera sans doute jamais quelqu'un comme lui. On pense à tous ceux qui l'aimaient. Et il nous reste ses livres. Presque tous sont parus en poche. Lisez-les, foncez dans l'univers de Tellet. Avant de conclure, le son de l'outre-mer avec un extrait d'une nouveauté musicale. Voici la réunionnaise Maya Kamati et un extrait de son tout nouvel album qui sort ce week-end. C'était un extrait du tout nouvel album de la réunionnaise Maya Kamati avec Cartel que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Adèle Caglar. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter. Avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, émission spéciale autour de l'événement Livre Beyrouth avec des invités sur place à Beyrouth et en plateau dans notre studio. Bonne semaine, bon week-end à tous.